Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est Podcasty, l'équivalent pour Popopop du Fridayware. Le jour de la semaine où Popopop s'intéresse au monde merveilleux, féerique, interstellaire du podcast qui permet à toutes et à tous, et aux autres aussi, de s'exprimer vocalement sur des supports et des formats bien plus souples que la radio tradie. Place à l'aventure, à l'invention, aux idées les plus folles. Vous me direz, mais c'est exactement Popopop et je vous répondrai que c'est très aimable à vous de l'avoir remarqué. Aujourd'hui, à l'honneur dans Popopop Podcast, Victoire Thuaillon pour sa collection Le cœur sur la table, suite logique de son célébrissime Les couilles sur la table, et qui dénote une certaine permanence dans ce louable souci de ne pas laisser traîner n'importe où nos organes. Et c'est tout à son honneur. Il faut mettre de l'ordre là-dedans, au risque de retrouver mon cul sur la commode ou ma main dans ta gueule, ce qui serait une désolation de plus en cette période de vive tension que nous traversons. Popopop Podcast, épisode 13, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Cône.
Et bonjour Victoire Thuaillon.
Bonjour Antoine de Cône.
Bienvenue dans Popopop Podcast.
Merci.
D'abord, est-ce que vous arrivez à prononcer correctement le nom de cette émission ?
Popopop Podcast ?
Ah, du premier coup. Ah, je le crois pas.
Oui, ben on s'est beaucoup entraîné parce que beaucoup de gens disent podcast, même chez nous. Oui, on a du mal à dire
ça. Popopop Podcast. Vraiment, je suis épaté. Ça n'arrive pas toutes les semaines, croyez-moi. Victoire Thuaillon, aujourd'hui nous allons parler de cœur, de couilles et de table aussi. Alors, c'est pas un camoulox, mais le sommaire de l'émission. Ça vous va ?
C'est très bien.
Bien, car ensemble nous allons évoquer le cœur sur la table, votre podcast dont l'épilogue vient d'être diffusé, et les couilles sur la table, votre précédent podcast, et des livres qui ont été adaptés de ces fameux podcasts. Alors le point commun de ces deux podcasts, c'est l'amour, la révolution romantique que nous sommes en train de vivre. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une grande amoureuse, Victoire ?
Eh bien oui, mais je crois comme chacun, chacune d'entre nous, non ? Enfin, c'est parti de cette affirmation un peu naïve, mais que je crois vrai qu'en fait, à la fin de notre vie, ce qui aura compté, c'est est-ce qu'on a aimé et est-ce qu'on a été aimé ? Et ça me paraît être une question assez importante pour en faire un podcast.
Fondamentale. Hein ? Alors ça, c'est pour le cœur et les sentiments, donc le cœur sur la table. Dans quelle acception, d'ailleurs, faut-il entendre le terme romantique pour vous ?
Dans plusieurs, justement, c'est polysémique, c'est pour ça que ce mot était intéressant. C'est à la fois romantique, on pense à la Saint-Valentin et au petit cœur, mais on pense aussi à la période romantique qui a fait suite à la période des Lumières, où on a remis en question la rationalité, on s'est intéressé beaucoup plus aux émotions, on a eu des liens nouveaux avec la nature, avec les forêts, avec les montagnes et tout ça, et je pense qu'il y a des similarités avec l'époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Où on est en train de tout décloisonner et où les choses sont beaucoup plus poreuses qu'elles ne l'étaient.
Oui, où on fait beaucoup plus attention aux émotions, où il y a vraiment un amour et un intérêt pour la nature qui est en train de se réveiller. On remet en question l'absolue rationalité scientifique, et pour le pire, mais aussi pour le meilleur, je pense.
Et surtout, comme vous le dites très justement, Victoire, on ne va pas attendre la révolution pour s'aimer, on est d'accord ?
Non, c'est ça, on ne va pas attendre ni la fin du capitalisme, ni la fin du patriarcat, ni tout ça, puisque nous allons mourir bientôt.
Ah bon ?
Oui.
Ah, c'est prévu,
vous
c'est le programme.
Oui.
Ah,
moi aussi.
Non,
ne oui,
dites pas ça, vous allez me stresser tout de suite, alors que l'émission vient à peine de démarrer. Bon, avant d'aller plus loin, deux mots sur le titre « Les couilles sur la table ». Vous dites que ce titre résumait parfaitement le projet parce que avoir une discussion implique souvent une table, dites-vous. Alors la table, ok, mais les couilles ?
Justement, c'est un objet très très intéressant à disséquer.
Pour les poser.
C'est ça. Pour regarder, puisqu'en fait, puisqu'il y a tellement de personnes qui aiment à poser les couilles sur la table, puisque c'est une action valorisée, autant le prendre au premier degré. Et donc, j'invitais les personnes à mettre leurs couilles sur la table et à regarder de quoi elles étaient faites. Enfin, c'est pas le principe de l'émission, mais disons, cette injonction permanente à la virilité, il s'agissait de la prendre au sérieux et de regarder de quoi elle était constituée.
Victoire, vous êtes journaliste, créatrice de podcast à succès, et ce qu'on sait moins, c'est que vous maîtrisez parfaitement les chèvres.
Est-ce que c'est vous qui l'avez fait ? Franchement, on ne dirait pas. Non, moi, les miennes, elles ne faisaient pas ça.
C'est pas moi qui fais la chèvre, non. Car après vos études, désespéré de ne rien savoir faire de vos mains, dites-vous, vous êtes parti élever des biquettes en Andalousie. Ça, vous n'avez pas pensé en faire un podcast, genre les chèvres sur la table?
Non, à cette époque-là, en plus, j'étais vraiment perdue parce que je me trouvais nulle, je savais pas quoi faire, j'en avais marre d'être enfermée dans ma tête. Donc, j'ai trait des chèvres, c'est vrai, 120 le matin à 6 heures à la main. Et puis, j'ai tué les chevreaux, j'ai désherbé des fraises, j'ai trié du grain, j'ai écouté beaucoup de podcasts et j'ai écouté beaucoup Radio France.
Eh ben, voilà une vie qu'elle est déjà bien remplie. Vos podcasts, les vrais, Victor Thuaillon, nous allons en parler dans les 2 minutes qui viennent avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après. Something Greater, c'est un morceau d'un groupe qui préfère les kangourous aux chèvres car ils sont australiens. C'est Parcells. C'était le morceau Something Greater, en un mot, hein, dans Pop Pop Pop, en un mot aussi, et vient de nous rejoindre Charline Roux, en un mot également. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine Decaune, en un mot également.
Alors Victoire, bonjour, pour Victoire. Bien comprendre, bonjour, vous venez du monde journalistique, une carrière qui commence en 2014 au quotidien La Montagne, puis à la Grande Librairie sur France 5. Vous dites d'ailleurs avoir énormément appris auprès du rédac-chef et du présentateur François Bunel, dans sa façon d'interviewer. Vous dites que votre façon à vous est directement inspirée de la leur. Alors, je suis régulièrement la Grande Librairie, je vois bien une table basse, mais j'ai jamais entendu François Bunel parler de couilles, même ce mot-là dans sa bouche. Et vous?
Pas en plateau, en tout cas.
Ah, on est d'accord, hein.
Ça sous-entend bien des choses.
Non, pas du tout.
Comment est-ce que vous qualifieriez cet héritage, ce style qui est à la fois doux mais direct, précis mais sans agression? On est très très loin du coup de poing et très loin aussi de la seringue hypodermique, qui sont parfois les deux écueils. En bref, comment est-ce que vous maintenez à la fois votre auditoire, public comme interviewé, captif?
Eh bien, en pensant toujours à elle et à eux, quand je pose des questions, et en me disant que les interviews que nous faisons, c'est vraiment au service des auditrices, comme je les appelle, ça va plus vite que dire auditeur-auditrice, bon. Et donc, et en ne préjugeant pas, en faisant pas comme si moi je savais, et ou alors comme si eux ils savaient aussi. C'est-à-dire que j'ai aucune honte à ne pas savoir, à demander des questions de définition. Et si j'invite quelqu'un, c'est parce que je pense que sa pensée mérite d'être entendue, d'être déroulée, etc. Donc je suis juste là pour ça, pour permettre à ce chercheur, cette chercheuse, de dérouler sa pensée sans être interrompue, en ayant tout le temps dont il ou elle a besoin. Et apparemment, c'est ça qui plaisait beaucoup dans Les couilles sur la table.
Alors Victoire, vous êtes passée dans une autre rédaction il y a une dizaine d'années, mais vous en gardez un moins bon souvenir, notamment lorsque vous avez voulu proposer un sujet sur le harcèlement de rue, car on vous a répondu que ça n'existait pas, enfin que personne n'en parlait dans l'entourage du rédac-chef, donc que ça n'existait pas. C'était dans la rédac du JT de France 2. Non mais alors les mecs, essayez de mettre les bips au bon moment là. C'était sur France 2 qu'il fallait mettre le bip. Bon. Vous avez également été choqué du traitement concernant l'affaire DSK, c'est ça ?
Oui, alors peut-être que ça a changé. Hein, je n'y suis pas retournée, mais enfin, c'est vrai que j'ai commencé en fait comme journaliste là-bas, comme apprentie journaliste, et donc j'avais déjà des convictions féministes. Mais évidemment, j'étais apprentie, je pouvais pas exactement en parler, et donc c'était un très bon observatoire pour voir comment des personnes qui se pensent objectives, ne pensant avoir aucun biais, etc., et ne cherchant pas à les questionner, transforment les sujets du coup et transforment la réalité et la transmettent de façon injuste, me semble-t-il. Au public. Voilà, c'est assez dur comme analyse, mais le traitement de l'affaire DSK était révoltant, le traitement des violences sexistes était révoltant, mais j'ai vu France 2, mais dans les autres médias, c'était quand même pas mieux. C'est-à-dire, ça fait pas très longtemps que les violences machistes sont un sujet. Ça fait pas très longtemps du tout qu'on peut enquêter très sérieusement sur les violences sexuelles et sexistes commises par les puissants.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous demander ce que ça signifiait d'être un homme en 21e siècle, à déblayer les modèles, les archétypes proposés, à vous demander si, comme on commençait déjà à beaucoup l'entendre, le masculin était en crise, voire en péril ?
Oui, c'était une question qui me... Je crois qu'il était en fond dans ma vie, comme beaucoup de femmes, hein, il me semble, et puis d'hommes aussi, pour d'autres raisons. Mais disons, j'ai grandi aussi au moment de la guerre du Kosovo, des attentats du 11 septembre et tout ça, quand j'étais petite, c'était ça. Et ce qui me frappait, c'est vrai, c'était qu'en fait, c'était que des mecs en fait qui tuaient, qui commettaient des attentats, qui violaient des femmes, qui tuaient leurs femmes, etc. Enfin, et donc je me demandais, basiquement, pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui fait ? Je n'acceptais pas du tout l'idée que c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, les hommes sont violents, hein, ils tuent leurs femmes comme on boit un mojito, tu vois, c'était pas acceptable pour moi. Et c'est vrai qu'à France 2, c'était une question renouvelée encore, notamment à cause de cette histoire de harcèlement de rue, puisque quand j'avais commencé par... j'avais fini par raconter toutes ces histoires de harcèlement de rue, qui étaient quand même quelque chose de très banal, les hommes autour de moi, je me rappelle, certains rédacteurs ou certains, bref, collègues, qui ne pensaient pas que ça existait, et quand je leur racontais, ils disaient c'est vraiment horrible de dire des choses pareilles à des femmes et tout. Mais moi, je les entendais dire des trucs tout aussi horribles en fait dans les couloirs. Et donc, je me rendais compte à quel point ils se servaient de figures repoussoires de la masculinité pour eux-mêmes se valoriser en tant qu'hommes. Et je trouvais que c'est une dynamique fascinante. Parce que c'est de l'humour, parce que c'est de la galanterie, parce que c'est pour draguer, parce que je sais pas quoi. Et c'est vrai que personne ne les reprenait, puisque c'était une forme de sexisme acceptable. Et la différence entre le sexisme inacceptable, en gros pour faire court, celui des hommes pauvres et racisés, et la différence entre du sexisme acceptable qu'on peut pas relever, donc des collègues en l'occurrence qui avaient plus de pouvoir que moi, ça me paraissait très intéressant à observer et à décrire.
Victoire Thuaillon, de ce passage dans les coulisses de France 2... Alors maintenant, à chaque fois que je vais dire France 2, vous allez mettre le bip juste à côté de la plaque, là, en régie. Ok, bien, ça s'arrange cette maison. Vous vous êtes posé donc une question, Victoire, qui m'a fait mourir de rire. Pourquoi la grande majorité des journalistes télé parlent-ils de la même façon ?
Armés d'un câble Wi-Fi, ils passent leur temps sur leur smartphone.
Un reportage diffusé sur Arte Radio est titré « Et là, c'est le drame ». Est-ce que vous avez subi, vous aussi, est-ce que vous avez souffert de ce formatage et eu du mal à trouver votre propre voix ?
Oui, c'est le sujet de ce documentaire où je raconte ça. Eh bien oui, en fait, les journalistes n'apprennent pas naturellement ils n'y arrivent pas tout naturellement à faire cette voix off de reportage, donc ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement, une écriture particulière. Il faut s'exercer, moi je m'exerçais la nuit, là je récupérais les textes dans les imprimantes, les textes de mes collègues pour essayer de faire exactement le même ton, et je n'y arrivais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai pas continué à la télé, vraiment j'étais mauvaise, ça ne marchait pas.
Et c'est un ton qui avait déjà parodié les nuls, dès le début des années 80, j'ai un souvenir. imaginez-vous. Bon, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos chèvres, enfin à vous, Victoire, Thuaillon. Charline, les couilles sur la table ne parlent pas que de table ni de couilles, expliquez-nous.
Un programme qui étudie les masculinités contemporaines avec des épisodes sur la paternité, sur la politique, le mal en couple, les bagnoles, la rhétorique masculiniste, le porno, la contraception masculine, la bouffe avec des invités tels que Virginie Despentes, les philosophes Didier Ribon, Paul B. Preciado, le sociologue Éric Fassin. Bref, une somme de savoirs, de pistes de réflexion colossales mais accessibles et brillamment exposées.
Et ça sonne comme ça.
Ceci est un épisode d'éducation sexuelle, poétiquement intitulé « Tout sur la bite ». Parce que je suis persuadée qu'on a tous et tout à gagner à bien connaître son corps et celui des autres. Les organes génitaux masculins restent en fait assez méconnus et j'ai l'impression qu'on croit souvent qu'ils ont un fonctionnement simple et évident, alors qu'en fait, pas du tout. Précision, dans cette conversation, en utilisant le terme « homme » et « garçon », on fait référence aux personnes assignées hommes à la naissance du fait de la forme de leurs organes génitaux. Même si je le rappelle, dans le cas des personnes trans, eh ben on peut très bien être un homme et avoir une vulve ou être une femme avec un pénis.
Voilà donc un extrait de « Tout sur la bite », hein, cet épisode que vous conseillez pour les néophytes. Est-ce que vous avez d'autres épisodes à conseiller, Victoire? Parce que, je veux dire, d'autres titres pour quelqu'un qui voudrait conseiller le podcast à ses grands-parents, par exemple.
À ses grands-parents,
celui-là est très bien, moi, je trouve. Hein, c'est concernant.
Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai, tout sur la bite. Non, ça marche bien. Je pense que les entretiens avec Virginie Despentes sont assez accessibles aussi. Même ceux avec Paul B. Preciado, en réalité. Ouais, okay. Ouais. Enfin, j'ai essayé que voilà, tout soit audible par des jeunes gens et par mes grands-mères.
D'accord. Eh bien, amis matures qui nous écoutez, je sais que vous êtes nombreux. Je dis, je sais que vous êtes nombreux. Vous pouvez aller sur Tout sur la bite.
Un podcast qui étudie le masculin pluriel et qui réussit le tour de force d'être qualifié par le journal Le Monde, je cite, de crème de la crème des podcasts féministes, d'être cité comme référence par des autrices comme Mona Chollet, d'être écouté, partagé, discuté. Est-ce que vous vous attendiez à un tel raz-de-marée?
Oh non, en fait, quand j'ai démarré, c'était un mois avant MeToo, le premier épisode, ça faisait longtemps que je voulais faire ce programme. Non, j'avais pas de visée de succès ou tout ça, je voulais juste faire le meilleur programme possible, des entretiens intéressants. Je suis toujours obsédée d'ailleurs par le fait de pas perdre le temps, de pas faire perdre du temps aux auditeurs, auditrices. Donc, je m'y attendais pas, mais je me disais, voilà, je vais poser des questions qui, moi, m'intéressent vraiment, sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Je ne comprends pas pourquoi on parle pas du cœur du problème dans le patriarcat, c'est-à-dire les hommes, la façon dont on les élève, la façon dont les structures se tiennent, etc. Mais donc, oui.
Et il faut que je cite Binge Audio Édition, puisque c'est le nom de l'édition, c'est ça?
C'est ça. En fait, Binge Audio, c'est un média de podcast. Ouais. On fait plein de podcasts hyper bons. Ouais. Et on publie aussi des livres avec Binge Audio Édition. Donc, Les Couilles sur la Table a été édité par Binge Audio Édition. Le Cœur sur la Table également. Et on vient de lancer une collection que je dirige qui s'appelle La Collection Sur la Table.
Donc, sur la table. Bon, aujourd'hui encore, ce podcast cumule plus d'un million d'écoutes par mois. Vous l'avez adapté donc en livre. Fameuse Binge Audio Édition, pour répondre aux questions « Qu'est-ce que ça veut dire être un homme en France au XXIe siècle ? Qu'est-ce que ça implique ?» Alors, comment est-ce que vous l'avez construit, ce livre ? Parce que vous dites que les grandes émotions, pour vous, passent par le son.
Oui, c'est vrai, mais en fait, aussi par la lecture et par les idées. Il y a des idées qui provoquent des jubilations, non ? Des révélations que vous sentez dans vos os et tout ça, c'est vraiment... Bon. Alors, le plan des couilles sur la table, ça aurait été absurde d'imprimer des entretiens. Enfin, je veux dire qu'ils le font, mais moi, j'aime pas ça. Je trouvais que bon. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai écrit en fait un essai sur la masculinité. C'est-à-dire, au bout de 3 ans de recherche, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce que je l'ai écrit en plus dans mon village du Berry, et donc je parlais avec des gens au bar et je parlais avec des vieux copains de collège et tout, et j'essayais de leur dire ce qui me semblait vraiment important de retenir sur voilà comment on est un homme et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et donc le plan, c'était que être un homme, c'est une construction en fait. Vous ne naissez pas comme ça en vous disant je suis un homme. En fait, c'est une longue culture, un long apprentissage. Oui. Donc tout ce qui peut construire, tout ce qui se construit peut se déconstruire. Que c'était un ensemble de privilèges, que c'était aussi une position dans un rapport d'exploitation. Les hommes bénéficient de l'exploitation du travail des femmes essentiellement. Pour aller très vite, que c'est aussi un rapport particulier à la violence, et enfin que tout ça peut se transformer et s'esquiver. Et c'était ça qui m'intéressait. Donc c'est un essai en fait que j'ai écrit sur la masculinité aujourd'hui.
Et c'est passionnant cette histoire. Bon, les couilles sur la table, c'est à écouter de toute urgence si ce n'est déjà fait, en commençant par Tout sur la bite, hein, ou un autre épisode. Comme vous voulez, ça se prend par tous les sens, si je puis dire. Victoire Tuayon, chaque vendredi dans Pop-Up Podcast, Charline Roux, ici présente, nous livre une sélection de podcasts à glisser entre vos deux oreilles, chastes ou non. C'est l'heure du Popcast Jingle.
Le Popcast.
Le Popcast.
Oui, alors nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, Victoire. Hein. Merci quand même à l'équipe de 2 heures de perdu pour ce podcast qu'on se trimballe depuis la rentrée, ce jingle.
Oui, tout à fait. Que font nos enfants et ados quand ils sont collés à leur mobile? Ils naviguent, ils scrollent, ils filment essentiellement eux-mêmes, ils se mettent en scène, ils échangent, que ce soit des mots de style télégraphique ou des vidéos. Et c'est le cas de la nièce de Judith Duportail, documentariste à qui l'on doit les formidables, qui est Miss Paddle, l'amour sous algorithme, et qui est votre nouvelle collègue de bureau, Victoire. La nièce en question est une jeune fille de 13 ans, accro au réseau le plus populaire chez les ados, qui lui vaut d'être rebaptisé Little Miss TikTok pour ce programme de 22 minutes.
Un an après son arrivée en Europe, l'application d'origine chinoise est devenue incontournable chez les collégiens et lycéens. Au début, le concept de TikTok, c'était d'apprendre des chorégraphies sur des courts clips. Tu te filmes en train de danser dans ta chambre, dans ton salon, dans ton jardin, tu postes et tu recommences sur une autre chanson. En gagnant en popularité, le réseau social s'est développé hors de la danse. C'est maintenant un mélange entre le meilleur et le pire de la télé et le meilleur et le pire des réseaux sociaux. TikTok, c'est le futur, mais c'est aussi un mix du passé et du présent. Il y a un petit côté M6 avec La France a un incroyable talent.
Je suis censée se boire le matin, il est 18h, mais je me suis dit que j'allais tester l'expérience avec vous. On dirait de la soupe, mais genre dégueulasse.
Ou encore un petit air de cauchemar en cuisine.
Nouvelle recette qui m'a aidée à perdre du poids. Alors c'est parti, sur une passe feuilletée, vous êtes allé du Philadelphia.
On tombe aussi sur déchiffrer des lettres.
Faute de français insupportable partie 1. Malgré que, arrêtez avec malgré que, ça n'existe pas. C'est bien que ou malgré.
Un MTV malaisant, où des filles dansent en maillot de bain sur des chansons insupportables. Comme cette chanson, Bim Bam Toi, qui a été reprise plus d'un million de fois.
Alors pourquoi les mômes passent autant de temps sur ce réseau? Qu'est-ce qui fait son attrait hypnotique? Quelles sont les règles? Et surtout, comment éviter les nombreux dangers? Des pistes de réflexion dans Little Miss TikTok, c'est réalisé par Charlie Marcellet et c'est un podcast Arte Radio.
Et on continue avec un podcast stupéfiant, Banana Kush.
Banana Kush.
Banana Kush.
Du nom de cette plante, dont la saveur et l'arôme rappellent ceux de la banane, est réputée pour sa forte concentration en THC. Un programme, je cite, qui ausculte le cannabis dans toutes ses dimensions. Usage, santé, business, politique, art, langage, avec une conviction bien plus qu'une substance illicite, le cannabis est devenu un véritable objet culturel. Fin de citation. Un podcast de Camille Diao, Christophe Paillet, réalisé par Charlène Nouillou. Et avant de me voir vouer aux gémonies, je précise qu'il est bien spécifié sur le site du podcast. Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé, ce qui n'empêche pas de se cultiver. Ainsi, pourrez-vous y entendre des invités, le réalisateur Yann Kounen, la comédienne Liliane Rover, les musiciens Mead, Sébastien Tellier, l'ancien candidat Benoît Hamon ou encore Mathieu Kassovitz, et des dossiers allant du cannabis thérapeutique à l'inquiétant cannabis de synthèse, en passant par l'autoculture et la parentalité. Et un épisode se situe en plein milieu de notre terrain de jeu, puisqu'il est consacré aux stoner movies, ces films avec des héros un peu fonfons, au hasard le Big Lebowski ou l'ensemble des Seth Rogenry. Mais quand le cannabis est-il apparu aussi? Réponse avec le youtubeur Ace Modé et Punky du podcast Some Stoner Stuff.
Bah la référence c'est toujours Reefer Madness.
Marijuana, the burning weed with its roots in hell.
Donc qui est un des premiers films financés par une église. Donc le film est tourné en 1936 par Louis Gasnier, un réalisateur et scénariste français. Le film est censé servir de propagande.
Donc toi tu dis propagande, mais je pense que c'était vu par cette église comme un film de prévention pour éviter que les jeunes commencent du cannabis. Finalement, par sa représentation complètement délirante de ce qu'est le cannabis, il va poser les premiers jalons de ce qu'est un stoner movie, dès 1936.
Exactement.
Et en fait le film va rester comme étant la référence sur le film de cannabis, en fait, parce qu'il va tellement loin sur les faux effets du cannabis. C'est-à-dire que ben voilà, on va fumer, on va avoir une bouffée délirante et on va avoir envie de tuer ou son père ou sa mère ou son frère. C'est vraiment n'importe quoi et du coup ça le rend très drôle en fait.
In this film you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case.
Reefer Madness de Luigi Gasnier, sorti en 1936. Si vous souhaitez regarder cette curiosité, le reste de l'épisode de Banana Cush, titré Weed et Cinéma Super High Movie, est à retrouver sur toutes les plateformes.
Vous connaissez, mais est-ce que vous savez? Telle est l'épineuse question qui nous empêche parfois de briller en société.
Qu'est-ce que la chasse en enclos? Qu'est-ce que le droit à la déconnexion? Que sont les particules fines? Voici quelques-unes des nombreuses questions pour lesquelles on nous annonce maintenant, vous savez. C'est le titre de ce court podcast qui, en moins de 3 minutes, nous explique les mots et sigles qui font notre quotidien.
Avant le début de la pandémie, le woofing, dont l'acronyme est WOOF, a découvert un certain succès. On peut résumer cette pratique à la possibilité de voyager tout en travaillant dans une ferme, histoire de diminuer ses coûts. En raison de cette subtilité, on ne parle pas de voyageur, mais d'un woofer ou d'une woofeuse à comprendre par bénévole qui aide un hôte au quotidien pour des demi-journées de travail. Le woofing est une pratique qui intéresse donc surtout les jeunes, mêlant découverte d'un métier, d'une culture, d'une communauté et d'un lieu en se l'appropriant.
Donc si je travaille en woofing, je suis payée.
Alors non, le principe est d'héberger et de nourrir gratuitement une personne chez soi en échange de travail dans des exploitations biologiques à taille humaine où tout le monde vit ensemble.
Et maintenant, vous savez, c'est un programme bababam, vous pouvez désormais woofer en toute tranquillité.
Merci Charline. Victoire Thuaillon, après avoir parlé de couilles, nous allons parler de cœur, mais toujours de table. Avec votre récent podcast, ce sera juste après le son californien de Rémi Wolf avec ce morceau Grumpy Old Man.
Hey, it's okay. Look over the fence. There's things over there that I know you don't know about yet. Listen. I'm so defensive. There are things over there that I do not know about. Yeah. I'm so defensive. I get caught up in the modern day. The fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. And I'm so defensive, I got eggshells on my doorstep, and I don't give second chances easily. I've got long hair, long beard, turtleneck, sweater. Got that long hair, long beard, turtleneck, sweater. You've got short hair, short beard, nothing feels better.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Le cœur sur la table, c'est un podcast sur nos amours. Une enquête sur comment on s'aime aujourd'hui et comment on pourrait s'aimer demain. En réinventant tout. Nos codes, nos gestes, nos mots. Comment on se parle, comment on se touche, comment on s'écoute. Comment on se désire. Comment on s'embrasse. Et comment on prend soin les uns les unes des autres. En créant de nouvelles formes de relations. Parce qu'on ne va pas attendre la fin du patriarcat pour s'aimer. Et parce que s'aimer, c'est l'une des façons de faire la révolution. Le cœur sur la table, c'est un podcast de Binge Audio à écouter prochainement dans toutes vos applications.
Alors ça, c'était la bande-annonce du cœur sur la table de notre invité Victoire Thuaillon. Alors signalons quand même qu'à l'Apple Podcast, en un seul mot, c'est-à-dire la liste des podcasts les plus écoutés de l'année, bien, figure en tête le cœur sur la table. Ouais. Et nous vous en félicitons,
merci.
Ma chère Victoire. Charline, après les couilles, le cœur, donc, vous avez écouté et...
Je redis que c'est formidablement intelligent et instructif. Alors, navré de commencer par la fin, mais dans l'épilogue, vous expliquez ce projet par une métaphore des plus limpides. Chacune de nos relations est une créature vivante, née de nos interactions. Et si elle nous est reliée par des fils invisibles, à nous de la faire grandir, de l'entretenir. Et puis, si, évidemment, si on ne s'en occupe pas, elle dépérit. Et ces créatures sont évidemment singulières, peuvent naître d'un rapport amical, familial, amoureux. Le podcast dispense donc quelques conseils d'éducation pour ces créatures vivantes.
Oui, que nous sommes.
Oui, et même entre vous, regardez, entre vous deux, il y a quelque chose qui flotte. Voilà. Ah oui. Et c'est la relation que vous avez l'un avec l'autre, ça va avec les collègues aussi. Ouais. Enfin, c'est les relations au sens très très large. Eh bien oui, en fait, le cœur sur la table, c'était ce qu'on voulait faire, c'était justement de dire, ok, comment on en prend soin, en fait. Ça suffit pas de dire comment. Donc c'était un podcast de jardinage des relations et le sous-texte de ça, c'était évidemment le sexisme, les violences systémiques blessent les relations interindividuelles aussi. Ça blesse les relations entre les hommes et les femmes. Ça blesse les relations dans les familles. Ça fait énormément de mal. Donc la question, c'est comment on peut regarder ce qui fait du mal et faire autrement. Et donc c'est pour ça que dans le podcast, on donne plein de conseils qui sont très très concrets sur comment se parler, comment résoudre des conflits, comment résoudre aussi améliorer la relation qu'on a avec son propre corps, par exemple, parce que tout ça, ça permet encore une fois de s'aimer mieux.
Parce que, disiez-vous dans cette bande-annonce que nous écoutions il y a un instant, parce que s'aimer, c'est une des façons de faire la révolution. Une fois par semaine, un épisode pour réinventer nos relations amoureuses, nos liens avec nos amis nos parentes nos amantes ça, c'était le pitch. Comment est-ce que cette idée est née, Victoire?
L'idée est née parce que c'était étonnant de voir, avec les couilles sur la table, mais aussi plein de contenus féministes, à quel point des savoirs qui étaient théoriques, quand on parle de lutte, de ce qui est injuste dans le monde, etc., en fait, ça bouleversait complètement les personnes qui les écoutaient et qui devenaient de plus en plus convaincues. Mmh. En clair, après les couilles sur la table, les questions qu'on me posait sans arrêt, que moi je me posais, que mes amis se posaient, on était tous là en train de dire, ok, bah qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant qu'on est capable de regarder en face à quel point le sexisme est quelque chose d'horrible, à quel point c'est partout, à quel point le monde est dur et tout. Qu'est-ce que ça change dans nos vies amicales, dans nos vies amoureuses, et comment est-ce qu'on va faire très concrètement? Comment je fais avec mon mec sexiste? Est-ce que je reste hétérosexuelle, comment je me réconcilie avec ma mère, qui dit des trucs horribles sur le corps des femmes et aussi sur le mien, qu'est-ce que je fais de mon père qui m'a incesté, enfin, c'est des questions comme ça, hein. En fait, ça, toutes ces luttes-là, ces revendications, elles questionnent nos vies, et je suis sûre que vous aussi, vous
bien
êtes sentis interpellés par tout ça.
Et en quoi, selon vous, aimer est un acte révolutionnaire?
Eh bien, parce que c'est une pulsion de vie, c'est une pulsion de joie, c'est une passion joyeuse, pour parler comme Spinoza. C'est-à-dire, c'est ce qui nous fait nous dépasser nous-mêmes, nous donne le pouvoir de transformer le monde. Et je pense qu'en fait, toutes les convictions politiques qu'on a, en réalité, enfin, quand on est à gauche, je crois, c'est quand même mû à la base par un affect d'amour, non? Moi, de l'amour pour les autres, pour soi-même, pour tous les autres, pour la nature, quand on est écologiste, voilà. Donc c'est un affect qui est très très important. Et le fait de replacer au centre de ses préoccupations aimer, et qu'est-ce que c'est bien aimer, vraiment, eh bien, c'est profondément politique.
Et encore une fois, comme avec les couilles sur la table, il y avait un vrai manque à combler, puisque ce sujet était bien trop souvent condamné aux rubriques courrier du cœur ou aux sketchs des conversations entre copines. Alors qu'en réalité, c'est la seule chose qui nous anime, qui nous importe. Nos relations sont des sortes de micro-sociétés, comme vous le disiez. C'était un sujet d'étude à traiter urgemment, avec sérieux.
Ouais, bah merci. C'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on croyait. Moi, j'ai passé un an à travailler tout mon temps sur ça, et plusieurs années à lire dessus, à lire des essais, etc., et à me dire comment est-ce qu'on peut faire le lien entre, par exemple, des grandes théories philosophiques qui vont vous dire l'amour en théorie, c'est ça, et ces trucs pratiques dont on parle entre nous. Je veux dire, je suis sûre que vous aussi, vous donnez des conseils à vos amis sur comment résoudre une dispute, comment mieux parler à quelqu'un, comment être plus juste, en fait. Et donc, c'était des questions de justesse, de justice, de comment faire au quotidien, très concrètement, sans que ce soit du développement personnel non plus.
Mmh. Alors, Victoire, je vous entendais il y a quelques instant associé gauche et cœur, mais vous n'avez pas le monopole du cœur, ma petite fille.
Ouais, mon cœur reste à gauche.
Non, mais on peut être à droite et avoir du cœur.
Ça me paraît. Enfin, ça veut plus dire grand-chose, ouais. Mais disons. Voilà, moi, dans tous les mouvements là que je vois, ouais. Pour le climat, les grandes marches pour le climat, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes et tout, on est tous très en colère, mais c'est une colère qui est puissante et qui est joyeuse et qui est mue par l'amour, justement. Ouais, j'en dirais pas autant de
vous pensez pas que c'est une colère
politiques.
Qui dépasse les clivages traditionnels ?
Si, aussi, c'est pour ça que je dis droite-gauche, parce qu'on n'a pas meilleur mot. Je dirais tous les mouvements d'émancipation, c'est ça que je dis dans le podcast. Tout ce qui vise à conquérir de nouveaux droits, à faire en sorte que la vie soit vivable, en fait, à faire en sorte qu'on ait du temps, justement, pour s'aimer et les moyens de le faire. Mmh. Est-ce qu'on termine pas sur une planète pourrie, complètement asphyxiée, dans la misère et dans la haine les uns les unes des autres?
Alors ce podcast, Le Cœur sur la Table, est lui aussi à son tour un carton. Il a été diffusé de février 2021 à aujourd'hui, avec un épilogue diffusé le 4 novembre dernier. Attention, spoiler, ça se terminait de cette manière. Attention, gros spoiler.
Alors on vous dit merci et à bientôt.
Oui, bon, alors il n'y a pas à spoiler grand-chose.
Non, c'est ça. La fille dit merci.
Ouais.
Écoute. Ouais.
C'était donc l'épilogue. Mais il y aura encore quelques bonus, dites-vous. Quels sont-ils? Les Français veulent savoir, Victoire.
Donc on a tiré ce livre, Le Cœur sur la Table. Donc j'ai écrit le livre et le podcast en parallèle. Et dans le podcast, j'appelle sans arrêt à une grande conversation collective en disant « Emparez-vous de ces épisodes, écoutez-les avec vos amis, etc. » Et c'est génial parce que c'est ce que les gens font. C'est apparemment, quand vous écoutez un épisode du Cœur sur la Table, vous avez une envie irrépressible de l'envoyer à vos copines, à votre mère, à votre mec, etc. Et ça crée des discussions. Donc on est ravis que ce podcast serve à ça. Et donc on a dit « Ok, on va faire cette grande conversation collective en vrai. » Et donc on a fait une tournée dans les librairies à Paris, Lyon, Nantes et Strasbourg. Et j'ai enregistré ces échanges-là. Et quand j'arrivais en librairie, il y a souvent une centaine de personnes, je leur dis voilà, ce qui m'intéresse c'est vos questions, vos critiques, vos retours. Et donc on a enregistré tout ça et c'est ça qu'on va diffuser dans ces bonus, avant la fin de l'année.
Le Cœur sur la Table, c'est signé en livre et en podcast par notre invitée aujourd'hui, Victoire Thuaillon. Petit pop break dans ce numéro de Pop Podcast, c'est l'heure des pop news et des pop news est spéciale.
Jenna Fischer et Angela Kinsey sont meilleures amies dans la vie. Et sur le petit écran, elles étaient Pam Beasley et Angela Martin dans la version US de la série The Office. Depuis octobre 2019, elles se sont lancées dans une drôle d'opération et ça donne ceci.
I'm Jenna Fischer.
And I'm Angela Kinsey.
We were on The Office together.
And we're best friends.
And now we're doing the ultimate Office rewatch podcast just for you.
Each week, we will break down an episode of The Office and give exclusive behind-the-scenes stories that only two people who were there can tell you.
We're the Office ladies.
Elle revisionne tous les épisodes des 9 saisons et raconte les coulisses. Ça s'appelle Office Ladies et c'est dispo sur toutes les applis. Et je vous conseille aussi un podcast musical quasi sociologique animé par le journaliste Rob Arvilla, un programme intitulé 60 Songs That Explain the 90s, soit 60 chansons qui expliquent les années 90. L'un d'eux est évidemment consacré à Queen Céline et admirez donc la verve du monsieur.
Celine Dion sings her songs like they owe her money.
She sings her songs like she's a street-walking cheetah with a heart full of napalm.
Traduction, Céline Dion chante ses chansons comme si on lui devait du pognon. Elle chante ses chansons comme si elle était un guépard qui marche dans la rue avec un cœur plein de napalm. La suite, c'est dans 60 Songs That Explain the 90s.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
C'est moi.
C'était une tentative de Céline Dion ?
Oui, une première approche. Je prétends pas. Bon,
approche très lointaine, peut-être.
Merci,
non ?
Charline Victoire Thuaillon. Dans la suite de Pop 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 Podcast, nous parlerons de podcast, et éventuellement de podcast. Ce sera juste après le dernier morceau de Stromae. Santé.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa. Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batteur, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Santé, c'était Stromae. Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh ben, oh, oh. Et c'est Cosmoflash qui est en train d'atterrir dans ce studio et qui fait s'envoler toutes mes feuilles. Mais bonjour Cosmoflash.
Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas Biassi. Bonjour.
Bonjour Thomas. Bonjour.
À tous les deux, même si vous êtes seuls, enfin seuls, dans votre tête en tous les cas.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, Thomas et Cosmo. Alors allez-y.
Ouais, ben cette semaine, je vous parle d'un podcast qui s'appelle Shithole Country.
Vous parlez à moi là ?
Oui, oui.
D'accord, et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire pays de merde en français, je ne peux pas mieux le traduire. Mm-hmm. Hein. C'est une série en 8 parties racontée par Afia Kakire, une trentenaire ghanéenne américaine de la région de San Francisco. Mm-hmm. Alors, ce titre plutôt provocateur est emprunté à l'ancien président Trump et fait référence à sa description tristement célèbre des endroits, principalement en Amérique latine et sur le continent africain, dont il considère les immigrants comme indésirables.
Last week, I returned to San Francisco after a month in Ghana. I just spent the holidays with my parents and older brothers. all of us celebrating together for the first time in 5 years. The very next day, I awoke to some disturbing breaking news out of Washington.
Mr. President, will you give an apology for the statement yesterday?
Mr. President, did you refer to African
nations? You sort of shame on the refuse. Mr. President, are you a racist?
Qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, le podcast retrace le voyage d'un mois de Afia au Ghana pour aller voir ses parents qu'elle n'a pas vus depuis 5 ans. Mais ceux-ci l'accueillent avec une offre plutôt inattendue, un appartement à elle, en plein centre d'Accra, la capitale, gratuit, dans un complexe résidentiel que ses parents, eux-mêmes revenus des États-Unis, ont développé. Alors la proposition des parents est plutôt tentante. Hein. En Californie, Afia est autrice et mène une existence plutôt précaire, faite de petits boulots qui ne lui permettent pas vraiment de joindre les deux bouts. Mmh. Et dans le nouveau foyer qui lui est offert, elle voit la possibilité d'une plus grande stabilité et peut-être une voie vers une certaine réalisation de soi. Le Ghana est en pleine croissance, l'économie du pays est en plein essor. Alors pourquoi pas ?
Alors pourquoi pas ?
Bah en fait, elle est tiraillée. Hein. Sur ses épaules, il y a vraiment le poids de deux mondes très différents, pas vraiment réconciliables. Il y a une distance profonde qu'on entend dès le début de l'épisode 3. Elle vient d'arriver au Ghana, elle retrouve sa famille et sa mère l'emmène voir son nouveau projet de construction.
I'm in Accra, standing in the apartment my parents want to give me. And I feel white. Like Blair Waldorf in Gossip Girl levels of white. Don't get me wrong, some of my cousins are living large. I just never really thought generational wealth was in the cards for our twig of the family tree.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors, je suis debout dans l'appartement que mes parents veulent me donner, et en fait, je me sens blanche, comme le niveau de blancheur de Blair Waldorf dans Gossip Girl. Mm-hmm. Alors, en creux de cette réflexion, Afia se rend compte qu'elle n'est pas forcément prête à déménager au Ghana. Sa vision des choses est très américaine, son discours est truffé de références à la pop culture occidentale. Et plus tard dans le podcast, elle se rend compte qu'elle a énormément de mal à s'exprimer en dialecte twi, la langue de ses parents. Et en fait, ce moment capture vraiment la tension qui anime le podcast. L'appartement au Ghana est une opportunité, un échappatoire, mais est-ce qu'elle pourra vraiment assumer plus tard ?
Mais est-ce qu'elle pourra assumer ?
Eh bien, en parallèle de ce voyage et de cette opportunité, Afia s'interroge en plus sur sa place dans le récit américain, le récit des États-Unis, et se demande si elle est vraiment compatible avec la lutte des Noirs américains. Pendant le mouvement Black Lives Matter, elle ne se considérait pas vraiment comme une vraie manifestante, se sentait peu concernée par ce combat. Et au Ghana, c'est peut-être l'occasion pour elle de se racheter, de se revendiquer une place et une histoire qui pourrait être la sienne, en fait. Mmh. Mais ces hésitations et ces questionnements, tout au long du podcast, prennent tout leur sens dans l'avant-dernier épisode, durant une conversation familiale autour de l'état de sa vie sentimentale. Elle reçoit un SMS de son cousin Isaac.
What's up?
My phone is the one that's closest to the... Oh, that's the phone that's been blowing up. My cousin Isaac, who's on the couch, is asking me to check my phone.
Okay. It might be this the family WhatsApp group.
It's a text from Isaac. Why is he texting me? He's sitting 3 feet away. All right, well, it says... Don't do this.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Isaac ?
Voilà, eh bien, Isaac est dans la même pièce et lui envoie un SMS en lui disant « ne le dis pas ». En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Afia Kakihire, ce n'est pas le vrai nom de la narratrice. C'est un pseudonyme pour qu'elle et sa famille puissent s'exprimer librement durant l'enregistrement.
Et vous, Cosmoflash, c'est votre vrai nom peut-être ?
Alors, pas exactement, mais on en reparlera. Mais il y a une deuxième raison, hein, surtout, qui est beaucoup plus importante à ce nom d'emprunt, c'est que Afia Kakihire est homosexuelle. Et si elle acceptait l'offre de ses parents, elle déménagerait dans un endroit où la population LGBTQ est soumise à de fortes pressions. Un endroit où un projet de loi anti-LGBTQ extrême était étudié au Parlement en octobre 2021. Donc voilà, rien que pour son histoire et sa narration, Sheetal Country vaut largement votre attention. Sa construction, sa réalisation, son sound design en font une œuvre sonore vraiment de très très haut vol. Moi là, pour le coup, j'ai pris une vraie claque.
Et vous avez encore la marque, je le vois. Merci Cosmo Flash, merci infiniment et à bientôt. Ah, vous repartez sur votre mobilette volante là, ça casse un peu le mythe, ça, Cosmo. Bon, écoutez, bah, allez-y et soyez prudents sur la route. Hein. Salut Cosmo. Allez. Voilà. Oh là là, c'est pas gagné, ça. Enfin, bon. Régulièrement, je me sers d'un angle honteux pour diffuser des morceaux d'Elton John dans cette émission, en disant que lui aussi fait des podcasts. Alors c'est vrai, mais c'est honteux. Et ai-je besoin de cette raison non valable pour diffuser du Elton John dans mon émission ? La réponse est non. Je vous propose donc sa dernière collab avec Dua Lipa, Cold Heart.
Elton John plus Dua Lipa égale Cold Heart, le morceau que vous venez d'entendre dans ce numéro de Pop Podcast. Victoire Tuaillon, vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais ici nous avons une chronique qui s'appelle le podcast, c'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault. Jingle. Et le podcast que vous voulez conseiller à un ami, c'est quoi de meuf? Le podcast de Clémentine Gallo. Je vous laisse la parole. Là, attendez, écoutez la bande-annonce d'abord.
Vous écoutez Quoi de meuf? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Je suis Rachel Garaval-Carcel.
C'est parti!
Alors, en un mot, Victoire, pourquoi conseiller ce podcast-là?
Eh bien, pour sa précision, pour la force de travail de Clémentine Gallo, qui travaille toujours beaucoup ses sujets, ainsi que ses co-présentatrices. Il y a Pauline Verdusier aussi qui intervient souvent. Et puis, parce qu'en fait, si vous, qui nous écoutez, vous comprenez pas grand-chose parfois aux mots dans le débat public autour du féminisme, ben c'est un bon podcast pour aller plus loin, pour comprendre de quoi on parle. Là, par exemple, elles ont fait un épisode sur le woke. Qu'est-ce que c'est le wokisme, etc. On entend des choses qui n'ont pas du tout été développées dans d'autres médias. On passe un bon moment en fait avec elles. On s'habitue à les retrouver comme on retrouverait des copines dans un bar, mais alors des copines qui ont lu beaucoup de livres, vu beaucoup de films, lu des tas d'essais et qui sont capables de vous en parler avec simplicité et profondeur.
Bien. Quoi de meuf de Clémentine Gallo, c'est la recommandation de Victoire Tuaillon qui était notre invitée aujourd'hui. Merci Victoire. Et j'ajoute une nouvelle de taille car France Inter se mobilise dès ce soir pour la 35e édition du Téléthon. Vous pouvez, comme nous, suivre les 30 heures de ce marathon télévisuel unique au monde. Vous pouvez également composer le 36-37 pour faire un don. Et mieux, vous pouvez faire un don au 36-37 en suivant les 30 heures du Téléthon. Le cœur sur la table, réalisé par Solène Moulin. C'est à écouter et à lire aux éditions Binge, tout comme Les couilles sur la table. Et c'est évidemment recommandé par Popo Podcast. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci beaucoup Antoine, merci Charline.
Merci Charline.
Je vous en prie.
Lundi, et merci à toute l'équipe de Popo Pop et à Julien Dumont qui était à la technique. Aujourd'hui, on se retrouve lundi, mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Popo Pop.